Vous écoutez RTL.
RTL, il est 7h30.
RTL Matin.
7h-9h15, Bernard Poirette.
Et pour ce journal, Christophe Ponzio. Christophe, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Une intoxication géante pour au moins 250 touristes français en Grèce.
Ces vacanciers séjournaient dans un hôtel 5 étoiles de l'île de Rhodes. Ils ont été pris de très importants vomissements. Un séjour gâché, témoignage dès le début de ce journal. Fini les chaises longues, retour difficile à la réalité pour le gouvernement. Conseil des ministres de la rentrée ce matin, où sera sans doute commentée la baisse du nombre de foyers imposés cette année, moins d'un sur deux. L'opposition dénonce le matraquage fiscal des classes moyennes. Également dans l'actualité, les hostilités qui ont repris à Gaza, la trêve est terminée. Au moins 8 Palestiniens tués, les négociations sont au point mort entre le Hamas et Israël. Le retour de Koh-Lanta à la télévision début septembre, un an après l'interruption du programme d'aventure de TF1 et la mort d'un candidat. Et puis les championnats d'Europe de natation bien compliqués pour Yannick Agnel qui s'est qualifié de justesse pour la finale du 200 mètres ce soir.
Dans 10 minutes, un été made in France avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Jean-Sébastien qui et Lorrain nous emmène pas bien loin de chez lui, dans le Morvan.
Le 7h30,
Christophe Ponzio,
RTL Matin.
Il comptait passer des vacances bien évidemment paradisiaques en Grèce. Eh bien, plus de 500 touristes français, se sont retrouvés cloués au lit.
Et puisque parmi eux, plus de 250 Français qui profitaient des piscines et de la mer turquoise d'un hôtel 5 étoiles sur l'île de Rhodes. La semaine dernière, tous ont été pris d'importants vomissements. Une probable intoxication qui a transformé leurs vacances en calvaire. Jean-Pierre profitait de ses congés organisés par Fram avec 8 membres de sa famille. Aujourd'hui, il compte porter plainte et raconte au micro RTL de Laura Mauchi.
Nous étions partis pour 15 jours. Première semaine, une semaine formidable. La deuxième semaine, alors là, c'est complètement l'enfer. Des vomissements, des diarrhées en moins d'une vingtaine d'heures. Pratiquement la moitié de l'hôtel est tombée malade. Tous les gens étaient dans leur chambre et la plupart sur leurs lunettes de toilette. Hein, voyez. Quand vous vous promeniez, vous n'aviez pas intérêt à vous promener sous certains balcons parce que les gens donc vomissaient par ces balcons. Donc j'ai vu des gens vomir dans la piscine, j'ai vu des gens vomir un peu partout. C'était apocalyptique, si vous voulez. L'hôtel dit que, en fait, les analyses alimentaires et d'eau sont toutes négatives. Donc moi, ce que j'attends maintenant, c'est d'une part les mettre devant la responsabilité, parce qu'ils continuent à envoyer des gens dans cet hôtel, si vous voulez, qui n'est pas décontaminé. Puis d'autre part, ils nous ont gâché nos vacances. Ce voyage m'a coûté 20 000 euros. Donc en fait, on va demander une indemnisation.
Oui, le témoignage de Jean-Pierre, l'un des 250 Français intoxiqués sur l'île de Rhodes, joint il y a quelques instants par Laura Mauchi.
RTL Matin, 7h33.
Au moins 8 Palestiniens ont été tués ce matin dans la bande de Gaza.
Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 août a été rompu par des tirs de roquettes sur Israël hier. Les raids aériens ont repris. Bonjour Daphné Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RTL en Israël. L'horizon d'une trêve durable semble désormais bien compromis.
Oui, cette rupture du cessez-le-feu, c'est le signe que rien n'avance au Caire. Le plan mis sur la table par les Égyptiens ne sera probablement jamais signé par les Israéliens, qui n'ont qu'un alinéa sur les 7 proposés par l'Égypte en leur faveur. Et les Israéliens ne veulent pas d'un accord, ils sont prêts à se contenter d'une trêve de facto, selon la fameuse doctrine du calme contre le calme. Le Hamas a donc lui montré hier soir qu'il briserait toute tentative israélienne de maintenir un conflit armé à petit feu, sans solution politique. Le Hamas a tiré plusieurs roquettes de petite portée, les Israéliens ont eux aussi montré qu'il n'y avait plus de petits feux qui tiennent et ils ont frappé très fort, ils ont frappé la famille de l'un des leaders les plus importants du Hamas à Gaza. Depuis, les tirs de roquettes se sont intensifiés, touchant jusqu'à Jérusalem, c'est à 80 km de Gaza. Ils ont précipité à nouveau des millions d'Israéliens aux abris et dans la réalité de cette guerre qui n'est pas terminée, même si beaucoup y avaient cru ces derniers jours.
Daphné Rousseau à Jérusalem pour RTL. Les tensions restent vives à Ferguson dans le centre des États-Unis. Un homme armé d'un couteau a été tué hier soir par la police de Saint-Louis, pas très loin de là. Les autorités redoutent la propagation des violentes émeutes qui sévissent depuis 10 jours dans le Missouri après la mort d'un jeune Afro-Américain tué par un policier. Washington se dit horrifié ce matin après l'annonce des djihadistes de l'État islamique. Ils affirment dans une vidéo avoir décapité un journaliste américain en représailles des frappes aériennes américaines en Irak. L'enregistrement n'a pas encore été authentifié. James Follett avait été enlevé en Syrie en novembre 2012. Louise.
Ce matin, à l'Élysée, se tient le premier conseil des ministres de la rentrée. Après les vacances, le gouvernement doit plancher sur la situation économique plus que préoccupante de notre pays.
Et c'est dans ce contexte que la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux ménages modestes cette année concerne plus de foyers que prévu. 4,2 millions de foyers, selon lemonde.fr, contre 3,7 espérés. Ainsi, le coût de la mesure est également plus élevé, à près de 100 millions d'euros supplémentaires. Pas de commentaire côté Matignon. Dans le même temps, on apprend que moins d'un foyer sur deux est désormais imposé cette année. Un recul de 4% en un an, mais qui cache une autre réalité pour le député UMP de l'Oise, Éric Woerth.
Il y a un matraquage fiscal qui est clair et net. La preuve, c'est que l'impôt sur le revenu a augmenté de 15 milliards d'euros en deux ans. Donc, il y a un matraquage fiscal qui se poursuit. Il y a une grande concentration de l'impôt. C'est-à-dire qu'on voit bien que les recettes se concentrent sur de moins en moins de foyers fiscaux. Moins de 50% payent l'impôt sur le revenu. Donc, ceux-là, ils vont payer plein pot. Et ce n'est pas 15 millions de foyers fiscaux hyper riches. C'est ce que dénonçait M. Hollande. C'est 15 millions de foyers fiscaux dont 98% sont des foyers qui gagnent modestement ou de façon moyenne leur vie. Donc c'est évidemment inquiétant parce que c'est celles et ceux qui consomment. C'est celles et ceux aussi qui entraînent une consommation qui elle-même entraîne l'investissement. On voit bien que rien n'est fait pour provoquer l'investissement dans notre pays. Notre pays est en train de mourir par manque d'investissement.
Éric Woerth, joint par Maxence Lambrecq pour RTL. Du jamais vu depuis 5 ans, les Français épargnent 16% de leurs revenus, c'est un record en Europe, affirme le journal Les Échos ce matin. Et puis la rémunération des actionnaires des grands groupes français monte en flèche, plus 30% en un an au deuxième trimestre, selon une étude, pour un total de plus de 30 milliards d'euros, un record mondial. Le coup de gueule ce matin sur RTL des professionnels du bâtiment. Ils souhaitent que le gouvernement accélère son choc de simplification. Le projet de loi a été adopté en première lecture et passera à l'automne au Sénat. Et Jacques Chanu est le président de la Fédération du bâtiment.
Monsieur Mandon, beaucoup de choses ont été promises. Quand ces mesures vont être mises en application et quand les entreprises vont pouvoir en bénéficier ? On ne peut plus accepter que les choses ne puissent pas se développer à cause de problèmes réglementaires et administratifs. Il faut avoir le courage de le dire et il faudra beaucoup de courage politique. J'espère que Monsieur Mandon en a.
Jacques Chanu, le président de la Fédération du bâtiment avec Anaïs Bouissou. Et ça tombe bien puisque Thierry Mandon sera l'invité de RTL dans 10 minutes exactement. L'allocation de rentrée scolaire a bien été versée hier à plus de 3 millions de familles. L'heure maintenant est aux achats, bien sûr, de fournitures scolaires.
Et la tendance qui se développe, c'est bien sûr celle de faire ses courses sur Internet. Reportage, Sophie Jousselin.
Oui, pour Richard et sa femme Caroline, l'achat des fournitures scolaires de leur fille Camille, 6 ans, c'est déjà un vieux souvenir. Dès qu'ils ont reçu la liste, ils se sont connectés sur le site conseillé par l'école. Ils ont cliqué sur « cours préparatoires » et ont choisi.
Il y avait les protèges cahiers, les stylos, les crayons de papier, dont certains doivent être HB, 2B, enfin vous connaissez ce type de choses. Les cahiers, les étiquettes avec le nom de l'enfant. Ça a duré 5 minutes et c'est arrivé une semaine avant qu'on parte en vacances et tout est déjà prêt.
Donc pas de crise de nerfs dans les allées bondées des magasins, pas de perte de temps. Et puis, et ce n'est pas négligeable.
Ça a évité également les petits tiraillements éventuels avec Camille pour le choix de telle ou telle marque de stylo, puisque là, sur Internet, il n'y avait pas de choix de marque.
L'expérience est donc plutôt positive pour Richard.
Je ne vois que des avantages, sauf si j'apprenais que ça m'a coûté le double ou le triple de ce que ça me coûterait en magasin, mais compte tenu de la somme, je ne crois pas que ce soit le cas. Je n'ai pas fait de comparaison de tarifs par rapport à l'achat en magasin, mais on peut imaginer que le bénéfice de le recevoir tout en un coup justifie un petit surcoût.
Il compte bien renouveler l'expérience l'an prochain, lui qui garde un souvenir mitigé de ses achats en boutique au moment de la rentrée des classes.
C'était pas du tout une période que j'aimais, donc le fait d'en priver ma fille, j'espère qu'elle m'en remerciera.
Le reportage de Sophie Jousselin pour RTL. Elle s'apprêtait à partir faire le djihad en Syrie. Deux jeunes Françaises de 15 et 17 ans ont été interpellées hier à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et à Vénissieux près de Lyon. C'est une information RTL.
RTL, 7h39.
Un an après la suspension de l'émission, Koh-Lanta revient à la télévision.
Le célèbre programme d'aventure et de télé-réalité de TF1 débutera le 12 septembre prochain. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Un an après la mort d'un des candidats, eh bien, ce programme n'arrive pas un peu plus tôt que d'habitude ?
Alors ça arrive plus tôt que d'habitude effectivement parce qu'en général, ces éditions All-Star, c'est-à-dire avec d'anciens candidats, sont diffusés plutôt au printemps. Une des explications probables est qu'il fallait un programme fort pour remplacer Masterchef, qui n'a pas été reconduit cette année par TF1. Koh-Lanta, c'est un des programmes qui génère le plus d'audience, hein, moyenne à plus de 7 millions de téléspectateurs, générateur aussi de revenus publicitaires confortables. On a calculé qu'en gros, avec 2 des 5 coupures pub dans un seul épisode, TF1 se rembourse l'épisode. Le pari est-il risqué ? Non, parce qu'avant d'accepter de relancer l'émission, TF1 a écouté, scruté les réactions de téléspectateurs qui réclamaient le retour de Koh-Lanta. J'étais sur le tournage en mai dernier en Malaisie.
Et c'est pas le moment d'avoir les jambes qui tremblent. Attention, 3, 2, 1, go!
Et ils n'ont pas eu les jambes qui flanchaient. Vous verrez le 12 septembre les attitudes d'aventuriers de ces 13 héros de Koh-Lanta, les Mundir, Teyura, Christina, Sarah, Philippe et les autres, ont de l'expérience et surtout ils ont changé, disait à l'époque Denis Brognard.
Bien sûr qu'on a de la matière, on a des candidats charismatiques. Si on devait faire un sondage, je pense que très vite, les prénoms de Mundir, de Teura, de Freddy, de Christina reviendraient sur le devant de la scène. On est à la fois surpris et heureux de voir que c'est une édition de Koh-Lanta riche. Bah, c'est vrai que certains aventuriers ont changé. Et vous faisiez allusion à Mundir, il fait partie des gens qui ont changé.
Alors, je précise que cette édition avec d'anciens candidats était prévue et programmée avant la mort de Gérald Babin. Ils n'ont pas fait ce retour des héros pour minimiser les risques avec des candidats chevronnés. Coup d'envoi donc le 12 septembre, 20h45 sur TF1.
Merci. Bonne chance à tous, préparez-vous, concentrez-vous et je vous donne le départ.
Voilà, il a donné le départ.
Il a donné le départ.
Merci beaucoup, Laurent. Merci. Vous ne vous éloignez pas trop parce que vous revenez dans une heure, dans les saluts tentés. De l'or et de l'argent au championnat d'Europe de natation français, bien sûr.
Florent Manaudou remporte le titre ex-aequo du 50 mètres papillon. Sur le 100 mètres d'eau, c'est Jérémy Stravius qui a brillé, sacré vice-champion d'Europe. Et puis Yannick Agnel s'est qualifié pour la finale du 200 mètres ce soir. Le champion olympique et champion du monde en titre a réalisé le 7e meilleur temps dans la douleur.
Ça se voit tant que ça. Ça pique vraiment beaucoup. J'ai essayé de donner ce que je pouvais. Je fais le maximum, mais effectivement, c'est vraiment difficile. Donc, je serre les dents et je donne le meilleur. Et puis, voilà. Je crois que dans ces cas-là, il faut être professionnel, faut jouer le truc. Je le fais à l'expérience, au mental, et puis on verra.
Yannick Agnel au micro RTL d'Isabelle Langer, envoyé spécial à Berlin sur ses championnats d'Europe. La finale du 200 mètres, c'est à vivre aujourd'hui, peu avant 19h. Et puis en football, Lille reçoit le FC Porto ce soir. C'est en match année aller barrage, donc un barrage de la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Christophe Fonzio. Prochaine édition en ce qui vous concerne à 9h. Et tout de suite, Marina Giraudot, un coup d'œil sur le temps de ce mercredi 20 août. Ça va être un temps changeant et variable.
Oui, il y aura des éclaircies. Alors ce matin, il y a beaucoup de nuages. Les éclaircies sont peu nombreuses, mais il y en a. On a quelques averses vers les côtes de la Manche et les Pyrénées. Cet après-midi, éclaircies plus belles vers les côtes de la Manche. Justement, ça va s'arranger sur les régions de l'Ouest, les régions atlantiques. Ça ira mieux aussi. Il y aura du soleil en Méditerranée également, du beau temps. Ailleurs, on va garder ce ciel changeant, hein, partagé entre périodes ensoleillées et nuages, avec toujours des petites averses, notamment pour l'Est des Pyrénées. Les températures, on garde la fraîcheur. 18 à Lille, au meilleur de la journée. 19 à Paris, 22 à Toulouse et 27 à Nice.
Et le développement de la météo, c'est dans un quart d'heure avec Marina Giraud.